c'est fou. La vie ça te flingue,
la vie ça te cloue. Ça te rend brin de zingue, ça te fait des trous.
Dans la carlingue, ça te rend flou.
Ça te fait du gringue,
ça te fait du genou.
La vie c'est dingue,
la vie c'est doux. Ça te désingue.
Nous recevons maintenant Maëlys qui est venue nous présenter sa chronique. Bonjour Maëlys.
Bonjour. Alors oui, je vais vous parler des féminicides et des violences conjugales. Donc un féminicide dit intime est le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son genre, par son conjoint ou son ex-conjoint. En moyenne, c'est 200 000 femmes par an qui se disent victimes de violences conjugales en France. En effet, c'est une des formes de violation des droits humains les plus courantes dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 35% des femmes tuées sur le globe le seraient par leur partenaire. On recense environ 122 cas de féminicide depuis début 2019 en France, un chiffre en augmentation par rapport à 2018. Cependant, les résultats divergent. Effectivement, cela dépend si l'on compte les ex-conjoints ou pas, la définition exacte qu'on donne à féminicide, etc. De plus, dans 40% des cas, les auteurs de féminicide se suicident et échappent donc à toute poursuite judiciaire et un procès. De ce fait, ces meurtres ne sont pas comptabilisés. Dans beaucoup de cas, la victime avait essayé de demander de l'aide. Cependant, les policiers sont mal formés pour y répondre et l'ordonnance de protection censée les protéger, mal connue et mal utilisée par les juges. Bien que les mentalités aient récemment changé et que les violences conjugales ne soient plus un tabou, les enfants restent les victimes oubliées. Effectivement, 29 mineurs ont depuis début 2019 assisté au meurtre d'un de leurs parents, trouvé leur corps ou encore appelé la police. Ils sont souvent pas suivis psychologiquement, ce qui entraîne des graves pathologies. Il semble que le gouvernement veut agir. Parmi les mesures qui ont été prises sont, entre autres, le renforcement des ordonnances de protection ou encore le retrait de l'autorité parentale une fois qu'il y a eu une plainte. De plus, la levée du secret médical devrait être votée pour les cas très graves et alarmants.
Alors, c'est un sujet très grave, c'est un sujet que tu as souhaité exprimer. Je vous propose de retrouver un témoignage, un reportage de Laura Giraud de 2017. On l'écoute.
Bonjour, bienvenue sur Fréquence Mistral. Donc vous êtes une femme qui a été victime de violences conjugales, de viols. Vous souhaitez rester anonyme pour des raisons de sécurité, ce qu'on comprend totalement. Présentez-vous un petit peu, brièvement.
J'habite dans les Hautes-Alpes, ça fait une vingtaine d'années. Voilà, là je suis en arrêt pour invalidité. Autrement, j'ai effectué différents métiers, 5 métiers différents dans les Hautes-Alpes. Voilà, que je ne vais pas préciser pour toujours rester dans l'anonymat.
Vous êtes venue dans les Hautes-Alpes pour fuir, justement ?
Non, je suis venue pour me délasser parce que j'ai essayé de passer l'agrégation et j'avais beaucoup travaillé. Je me suis dit, je vais me payer des vacances et donc ça n'a rien à voir avec les violences.
Racontez-nous ce que vous avez vécu.
Alors la première fois, mon premier viol a eu lieu lors de la fête du lycée quand j'étais en seconde. Des copains de ma classe qui m'ont dit « Viens, on va derrière le lycée ». Alors des personnes de ma classe qui d'habitude ne m'adressaient jamais la parole. Alors moi j'étais plutôt flattée qu'ils viennent vers moi. Donc je les ai suivis et puis innocente que j'étais, bon, je les ai suivis. Et puis derrière il y avait un grand monsieur noir qui m'a demandé de lui sucer son sexe. Donc voilà, ça a été mon premier viol buccal. Je suis rentrée chez moi, j'ai vomi, j'ai bu, je me suis rincé la bouche, enfin c'était voilà horrible. Donc ma réaction, ça a été avec mes parents d'aller voir le directeur et de le dénoncer, aussi ceux de ma classe. Mais c'est vrai que ils ont peu été sanctionnés. En tout cas, c'était pas en proportion par rapport à la gravité de l'acte. Mon deuxième viol, c'était au bord de la Seine. Il avait neigé ce jour-là et j'avais décidé de faire des glissades parce que c'est rare qu'il neige dans cette région. Et donc c'était dans un coin isolé. Un vieux monsieur s'est approché et descendu de son vélo. Et il m'a forcé à entrer dans une forêt. Et là, il m'a violée, donc là, avec son sexe, il m'a pénétré et il s'est soulagé en moi. Moi, je n'ai pas bougé parce que j'avais vu dans les films que les violeurs, en général, tuaient leurs victimes. Donc, pour éviter d'être tuée, j'ai fait comme si de rien n'était. Et pareil, après, quand je suis rentrée, je me suis lavée et relavée. Et après, j'ai été portée plainte auprès de la police. Mais vu qu'il n'y avait pas eu de traces de violence, ils n'ont pas porté suite à ma demande. Donc, je continuais à le voir passer devant ma fenêtre tous les jours sur son vélo, tranquille, à se promener. Et ça devait, c'était vraiment insupportable.
Psychologiquement, oui, ça devait être très très dur à supporter. Ça vous fait du bien de vous libérer, donc, en discutant avec nous aujourd'hui?
Ça fait du bien d'en parler, oui, et puis j'aimerais bien, moi, en tout cas, le but de mon interview, c'est de témoigner en vue de, enfin, pour montrer à d'autres femmes, voilà, qu'elles n'ont, si elles connaissent, si elles ont connu la même chose que moi, qu'elles ne sont pas seules, et que, et à la fin, vous verrez comment je m'en suis sortie. Autrement, donc, j'ai mon troisième traumatisme a été le premier homme avec qui j'ai fait un enfant, qui s'est révélé finalement quelqu'un qui buvait, alcoolique, et il avait l'alcool violent. Il a voulu à un moment donné étrangler mon fils alors que je lui donnais le sein. Donc là, je suis partie. Donc lui, c'était la violence physique plus. Voilà, il menaçait de se pendre, il menaçait de nous balancer tous sous les voitures. Enfin, quand il était sous, il donnait des coups de pied partout. Et voilà, il me menaçait de me donner un coup de boule. Puis ma réaction, ça a été de partir, d'aller chez mes parents. Évidemment, ils connaissaient l'adresse. Donc après, il a voulu enlever l'enfant. Donc tous les jours, j'avais peur qu'il débarque et qu'il enlève l'enfant. Alors mon père a fait monter sur le portail des crans, des pointes, pour pas qu'il puisse escalader le portail, et des grillages, on se croyait en prison chez mes parents, pour pas qu'il escalade la rambarde. Il a réussi à enlever le chien une journée, après il l'a ramené, mais je pouvais plus vivre là-dedans. Donc après, je suis partie 2 mois dans le sud, chez des amis, pour décompresser et essayer de respirer un peu. Et lorsque je suis revenue, plus de nouvelles de lui. Donc parce que je sais qu'il s'est fait arrêter par la police parce qu'il était en état d'ivresse et qu'il a tabassé certains policiers. Et après, plus aucune nouvelle. Donc il était normand, il a dû retourner en Normandie.
Votre enfant est au courant? Ça doit être aussi un traumatisme dur à porter.
Oui, il est au courant. Et d'ailleurs, lui, il avait finalement, dans son adolescence, il a suivi un peu le même chemin de l'alcool, mais pour d'autres raisons dont je vais parler maintenant. Le quatrième homme qui m'a fait du mal, ça a été le dernier. Voilà, je ne vais pas donner d'autres précisions. Là, c'était plus des souffrances psychologiques. Quelqu'un qui me rabaissait tout le temps. Quand je disais quelque chose, j'avais l'impression qu'à chaque fois, c'était du n'importe quoi. Alors que quand même, j'ai fait de très longues études, j'étais pas n'importe qui au niveau intellectuel. Et il m'a fait croire qu'au contraire, je valais plus rien, j'étais plus qu'une chose, que sa chose. Quelqu'un de dominateur, qui m'écrasait. J'avais l'impression que ma maison était mon tombeau. Je suis tombée dans l'anorexie, dans l'addiction à la course à pied, vraiment à l'épuisement. J'allais vraiment vers la mort, quoi. Et donc ça, c'était pour moi. Et par rapport à mon fils, il est devenu violent, mon fils, parce que justement, cet homme-là a été violent envers lui. Il le réveillait à coups de claques. Souvent, il l'empoignait dans les escaliers pour lui faire monter les escaliers en quatrième vitesse. Un jour, dans le jardin, donc il se bagarrait. Il a fallu que je fasse intervenir les gendarmes pour les séparer. Donc voilà, violence physique envers mon fils et psychologique envers moi.
Comment êtes-vous sortie de cette spirale infernale? Quelles assistances avez-vous eu recours?
En fait, j'ai mis 20 ans. J'ai vécu 20 ans avec cet homme-là et j'ai mis 20 ans à pouvoir partir. Donc ma solution a été de partir, de tout laisser, d'avoir le cran de tout laisser. Je suis partie juste avec mon cartable parce que je travaillais dans une école, ma fille, ma maman, et je suis partie. Voilà, en me disant je pars mais je ne reviens pas. Mais un jour, ça m'est paru évident. Parce qu'il me disait, sans moi, tu vas pas réussir à vivre, tu vivras que dans une tente, tu vas pas t'en sortir, tu tiendras pas debout. Et finalement, j'ai pu être hébergée sur mon lieu de travail pendant plusieurs mois, le temps que je trouve un logement social. Et je m'en suis sortie comme ça.
Vous vous prouvez donc, du coup, qu'aujourd'hui, vous pouvez vous en sortir seule. Et c'est beau.
Oui, ça fait du bien. Déjà, je suis plus écrasée. J'essaye justement de me reconstituer, d'essayer de comprendre qui je peux être, parce que j'avais perdu toute mon identité. je n'étais plus personne. Et là, petit à petit, je commence à renaître, on va dire. Voilà, c'est une renaissance.
Et vos enfants ?
Bah, mon fils vient de se sortir parce qu'il avait sombré, parce qu'il, à cause des violences faites contre lui. Le juge des enfants me l'avait enlevé, donc il avait été en foyer, où il s'était mis à boire et à fumer des joints. Et là, il vient de s'en sortir, ça fait 2 ans qu'il s'en est sorti. Il ne boit plus, il ne fume plus de joints. Et là, il vient de décrocher un CDI, il a repassé son permis de conduire. Donc mon fils, en tout cas, s'en sort très bien et c'est lui qui a le plus trinqué. Mes filles, bon, il y en a une qui veut pas voir son père, qui continue à avoir un peu peur. Puis l'autre, elle habite chez son père, mais elle vient me voir régulièrement. Voilà, en tout cas, il y a plus cette tension parce qu'il peut plus se défouler sur moi.
Ça lui crée quand même, elle, donc avec les hommes, elle a quand même... elle est en âge déjà d'avoir un petit copain ou...
Alors ma fille aînée, oui, elle a déjà eu un petit copain, tandis que la dernière, elle est complètement allergique aux hommes. Je pense que c'est pas innocent.
Vous êtes donc reconstruite, mais pas totalement à l'heure d'aujourd'hui ?
Effectivement, oui, je suis toujours dans ma dépression. Enfin, le dernier homme que j'ai, donc avec lequel j'ai vécu, m'a fait tomber en dépression il y a donc une dizaine d'années. Et c'est vrai que j'arrive pas à m'en dépêtrer de ces dépressions. J'ai des hauts et des bas, toujours pareil. Donc je me fais suivre par des infirmiers psychiatriques. Je vais quelquefois faire des séjours à l'hôpital psychiatrique. J'ai des cachets, beaucoup de cachets à prendre. C'est vrai que voilà, je me reconstruis, mais avec beaucoup d'aide. Je suis beaucoup entourée 24 heures sur 24 par la psychiatrie, quoi.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous avez d'autres choses à ajouter ?
Entourée aussi par des amis. Hein. Il n'y a pas que la psychiatrie. J'ai des amis extérieurs qui m'épaulent, qui sont avec moi et voilà. Donc je voulais aussi leur rendre hommage.
On vous souhaite donc de vous en sortir et d'y arriver enfin à se sortir de tout ça. Puis on vous remercie pour ce témoignage.
Je vous en prie, c'est avec plaisir. Et c'est surtout pour, en vue de dire à toutes les femmes qui souffrent qu'il y a forcément une solution. Il faut trouver à chacune sa solution.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang.
Voilà, donc après cette chronique et ce témoignage de Laura Giraud sur Fréquence Mistral Briançon, je vous invite à rester vigilants. C'était la chronique de Maëlys. Bonne journée sur Fréquence Mistral.
Oui, Maëlys, c'est ta seconde chronique. Je te félicite, tu as fait vraiment du super travail. Et puis, cette chronique, évidemment, c'est toi qui l'as écrite. Tu l'as conçue et réalisée avec la musique de Kill Bill, Bang Bang, qu'on va réécouter juste après. Et puis, le témoignage, ce reportage de Laura Giraud, très, 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 très intéressant, qui montre ce que ça peut être la violence conjugale, pire qu'un film d'horreur. Alors on espère qu'on n'a pas plombé la matinale, mais en attendant, c'est ton choix de chronique, et tu es libre, puisque nous sommes dans un pays démocratique, et tu es libre de parler de ce que tu veux, et c'est très très bien que tu t'intéresses à un sujet où les gens souffrent quand toi tu peux le faire, et que tu attires l'attention sur ce sujet. Allez, je vous propose d'écouter Kill Bill, Bang Bang, My Baby Shot Me Down, et puis on se retrouve juste après.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. See?
seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang, bang, my baby shot me down.